Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard et vous êtes à l'antenne de Canal M pour l'édition du 14 décembre 2020 pour l'émission Sans détour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tas de sujets. On va discuter du projet de loi 59 qui menace ou du moins semble menacer les personnes en situation d'handicap dans le domaine de l'emploi. Nous en parlons avec M. Dominique Salgado. Nous allons parler de générosité, de philanthropie avec Daniel H. Lantaigne. Nous aurons également Mme Archambault du Mémo Québec qui va nous parler des activités de son organisation, de ses projets, de ses réalisations. Et enfin, nous aurons Mme Bellavance, directrice artistique du groupe de danse, de la compagnie de danse Corpuscule, qui fête un bel anniversaire cette année. Le projet de loi 59 qui a été déposé à l'Assemblée nationale du Québec visant à moderniser le régime de santé et sécurité du travail du Québec risque de créer de la discrimination envers les personnes en situation d'handicap. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons en notre compagnie M. Dominique Salgado. Bonjour, M. Salgado.
Et bonjour, François. Ça va
bonjour,
bien?
Ça va très bien, merci. Vous êtes directeur général du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap. Et au moment du dépôt de la loi 59, il y a quelques jours, vous avez tout de suite soulevé certains aspects qui sont pour le moins troublants et qu'il faudrait peut-être corriger.
Tout à fait, oui, effectivement. En fait, on est très, très inquiet hein, que le projet de loi soit accepté tel qu'il est proposé. Et on n'est pas les seuls à s'inquiéter. Là. Il y a quand même quatre cabinets d'avocats d'importance au Québec, là, autant chez Fasken, Langlois, que Norton Rose, Fulbright, qui nous donnent raison à cet effet. C'est que ça pourrait créer un préjudice à l'embauche des personnes handicapées, mais également un préjudice aussi en matière de maintien en emploi. Je vous explique, c'est que il existe déjà une loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles qui protégeait déjà tout accident en milieu de travail. Mais là, avec ce qu'on tente de vouloir faire passer, en fait, ça pourrait brimer les droits des personnes handicapées. C'est surtout, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'article 97 qui vient modifier l'article 329 de la loi actuelle. C'est que dans le projet de loi, on veut introduire de nouvelles notions à la définition du travailleur handicapé. Alors, on parlera désormais de nouveaux termes qui n'existaient pas, comme incapacité significative et persistante, le terme obstacle et les termes également activité courante, sans toutefois préciser davantage leur signification. Alors, la CLSST, de son côté, va tenter de démontrer par la suite, lors d'une lésion professionnelle, un accident de travail, la CNSST va tenter de démontrer que le handicap a vraiment joué un rôle déterminant dans le phénomène qui a provoqué la lésion, qui entraîne le refus ou non d'une amputation totale ou partielle.
Ça envoie un message qui, essentiellement, n'employez pas des personnes handicapées, ils risquent de se blesser.
Ben voilà, c'est clairement une injustice. Mm-hmm. Car dans le cas d'une lésion professionnelle, ce sera beaucoup plus, on sera beaucoup plus orienté vers l'accident on sera beaucoup plus orienté vers le handicap que l'accident de travail tel quel. Alors c'est comme si on voulait imposer une taxe ou un principe du pollueur-payeur à une personne vulnérable. Vous êtes une personne handicapée, ben malheureusement, la CNSST ne pourra plus dédommager l'employeur. Alors, ce qui risque d'arriver, c'est que l'employeur se ramasse avec les frais à 100% lors d'une lésion professionnelle. Il y a plusieurs entreprises aussi qui dénoncent le fait que le gouvernement veut faire avec ce projet de loi-là. Pourquoi on fait ça? Bien évidemment, poser la question, c'est d'y répondre. Est-ce qu'on veut sauver des frais? Hein? C'est bien évident. Alors nous, on trouve que c'est vraiment une injustice et c'est complètement inacceptable parce qu'il y a quand même, ça veut dire que c'est quand même plusieurs centaines et milliers de personnes qui seraient primées de leurs droits au Québec. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que le ministre Boulay, qui est le ministre du Travail, a consulté les patronats, les syndicats, sans même s'adresser à un seul organisme en défense des droits des personnes handicapées. On s'est dit, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. On essaye de nous passer un sapin sur le faire de jeu de mots pour la période des fêtes.
Parce que souvent, dans des questions de loi du travail ou des choses qui ont lieu à trait au travail, au milieu du travail, les patrons et les employés ne sont pas toujours du même avis, alors que cette fois-ci, le patronat, lui aussi, s'insurge ou est en désaccord avec l'intention du législateur ou de la façon que c'est formulé. Alors là, vous avez à la fois... les deux parties de la table, autour de la table ne sont pas d'accord avec le projet de loi qui, dans ce moment-là, ne favorise que le bureaucrate, semble-t-il.
Oui, parce que ça vient, entre autres, déresponsabiliser complètement l'employeur à plusieurs égards. Alors, c'est ce que aussi le Conseil du patronat dénonce. En fait, on était très surpris là, qu'on n'a pas été invité à la table des discussions. Alors, on a fait, évidemment, on s'est fait entendre à gauche et à droite là, dans les médias, et je me suis adressé directement, personnellement, au ministre. Et vendredi, ben, on recevait une bonne nouvelle de l'Assemblée nationale qui nous invite le 21 janvier en audition à la commission de l'économie du travail. Donc, on sera entendu sur, évidemment, nos différents questionnements face à ce projet de loi-là, et entendu et écouté, je l'espère, pour pouvoir débattre des différents points qui nous concernent. Alors, c'est quand même un bon dénouement, une bonne nouvelle en bout de ligne. Alors, on souhaite évidemment que le ministre revienne à la table pour rediscuter des différents points qui nous concernent.
Parce que, est-ce qu'à la table, vous êtes votre organisme, le comité d'action des personnes vivant des situations de handicap a été invité? Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui défendent les droits des personnes vivant en situation de handicap qui ont été invités à table?
Oui, bien en fait, ceux qui nous invitent, nous, le CADVI, qui siège sur un collectif d'à peu près une vingtaine d'organismes au Québec, d'accord, la défense des droits des personnes handicapées. Donc, c'est vraiment la bonne nouvelle.
Vous représentez tous ces groupes. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la loi où les personnes vivant en situation de handicap doivent être aussi prudents, ou est-ce que c'est précisément cet article-là qui fait tiquer tout le monde?
Oui, ben principalement cet article-là, puis il y a d'autres éléments aussi, il y a des nuances importantes dans la loi qui ne sont pas claires non plus au niveau du partage des coûts, aussi selon le cadre actuel de la loi, avec les termes que je mentionnais tantôt. Encore là, ça va amener une désimputation sur la base même de la disposition de la loi. Alors, il y a plusieurs éléments là, qui méritent d'être discutés, de faire en sorte, évidemment, que tout le monde puisse en tirer son épingle du jeu. Mais jusqu'à présent, ça ne répond pas vraiment à ce que l'on défend depuis des années. Et faut comprendre aussi que cette loi-là avait été émise il y a plus d'une trentaine d'années pour protéger les travailleurs handicapés. Et là, le ministre, avec ce projet-là, va complètement à l'encontre même, si vous voulez, de la base de la loi.
De l'intention. Alors, à l'origine de la loi.
Tout à fait. C'est ce qu'on dénonce.
Que des cabinets d'avocats, quand même prestigieux, eux-mêmes émettent des commentaires, émettent des réserves par rapport au projet de loi. Est-ce qu'ils ont émis ces commentaires-là spontanément parce qu'ils œuvrent dans le domaine du droit du travail? Est-ce qu'ils ont été mandatés par une des parties prenantes?
Ben, en fait, ils sont très clairs dans leur page au niveau du site Internet aussi. Ils prennent position sur le projet de loi et notamment sur l'article 97. Ils font référence aussi à la classification internationale des handicaps qui ont été élaborée par l'Organisation mondiale de la santé. Là. Ça date quand même de 88. Et donc, il en tire conclusion également là, que, évidemment, ça crée un préjudice à l'embauche. des personnes handicapées et aussi donc toute la déficience qui peut aussi exister à l'état latent sans qu'elle soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. Ça aussi, comme vous disiez d'entrée de jeu, ça risque d'être encore plus difficile d'occuper un emploi pour une personne handicapée, ce qu'on ne veut pas. Parce qu'on sait évidemment qu'on a déjà lancé un cri d'alarme, nous, l'an passé, aux employeurs, en mentionnant, sous le même thème que l'OPHQ, entreprise inclusive, entreprise d'avenir, il faut savoir que les personnes handicapées sont les personnes les plus stables en emploi. C'est pas rien. Et selon les dernières statistiques d'enquête canadienne qui a été réalisée en 2017, on disait que les personnes chez les adultes, là, âgés de 25 à 64 ans, ayant une incapacité de taux d'activité de 61,3 % comparativement à 83,9 % chez les adultes sans incapacité. Alors, vous voyez...
L'énorme potentiel qui se perd avec toutes les personnes vivant en situation d'handicap qui sont... à la maison, à ne rien faire, et alors qu'ils pourraient contribuer de façon fort productive et positive à l'économie. Ah, ça, c'est l'Institut CDA, qui pourtant est souvent plutôt côté patronat, avait aussi fait quelque chose dans ce sens-là, qui parlait qu'il fallait intégrer au monde de l'emploi. Et c'est sûr qu'un projet de loi comme le projet de 59, là, qui rend la pente qu'il faut toujours remonter encore plus ardu, ça sert personne. Du côté du patronat, eux-mêmes ont des réserves quant au projet de loi. Est-ce que leurs réserves recoupent les vôtres ou vous risquez de vous retrouver à des pôles opposés quand vous ferez vos représentations à Québec?
On n'a pas eu d'échange directement avec le patronat. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont participé quand même aux premières discussions lors de l'élaboration du libellé du projet de loi. Donc, évidemment, ce sera des joueurs avec qui on va tenter de rediscuter par la suite, là, c'est clair. Mais on sent une inquiétude qui est claire, qui est manifeste également. Donc, il faut vraiment que le ministre revienne sur ses écrits. Et semble-t-il que le ministre est très, très pressé de faire adopter ce projet de loi-là début 2021. Donc, ce qu'il souhaite, c'est d'aller au plus vite avec une consultation, puis par la suite, faire l'adoption avant même le printemps. Là.
D'accord.
Alors, vous voyez qu'il y aura des discussions avant, pendant, puis après cette commission parlementaire.
La fâcheuse habitude de ne pas consulter toutes les parties en prenantes au moment de l'élaboration du projet, là, dont les personnes en situation d'handicap ont été victimes, j'allais dire une fois de plus. Est-ce qu'au moins le ministre a pris en bonne note que la prochaine fois qu'il implique les droits des personnes vivant en situation d'handicap, qu'il faudrait peut-être les appeler à la table?
Oh, ben on l'espère, puis fiez-vous sur moi qu'on va lui rappeler en commission, ça c'est clair.
Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Salgado. Nous étions en votre compagnie. Nous parlions du projet de loi 59 qui vise à moderniser le régime de santé et sécurité au travail, qui a fait toute une levée de boucliers. Bonne nouvelle, votre comité d'action de personnes vivant en situation d'handicap a été invité finalement à témoigner devant les parlementaires en janvier. Ben, merci beaucoup et puis on suit le dossier de près.
Merci, François.
Father will be pacing the floor.
Listen to the fireplace roar.
Really, I'd better scurry.
Beautiful, please don't hurry.
Maybe just a half a drink more.
Put some records on while I pour.
Neighbors might think,
oh, baby, it's bad out there.
Say, what's in this drink?
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Starlight
to
now.
Break the spell,
I'll take your hand. Your hair looks
I
well.
Ought to say no, no, no. I simply must go.
Maybe it's cold outside.
The answer is no.
Maybe it's cold outside.
The welcome has been.
I'm lucky that you dropped
so
in.
Nice and warm.
Look out the window at that big
My
storm.
My sister will be suspicious.
Man, your lips look so delicious.
My brother will be there at the
Waves
door.
Waves upon a tropical shore.
My maiden aunt's mind is
Did
vicious.
Did I mention that your lips look delicious?
Well, maybe just a cigarette more.
Never such a blizzard before.
Got to get home.
Oh, baby, you'll freeze out there.
Please lend me a comb.
Oh, it's up to your knees out there.
You've really been grand.
Yeah.
Talk tomorrow.
Making my life long so
At least there will be plenty implied.
If you got pneumonia and die,
I really can't stay.
Get over that old owl.
Maybe it's cold outside.
Oh, it's so cold out there.
I know, but I gotta go.
Noël, le temps de la générosité, des cadeaux, on veut faire plaisir, on veut aider son prochain. Et dans le domaine de la philanthropie, c'est un peu ça aussi. Souvent, les dons se font à la fin de l'année. Une année qui a été assez difficile du côté de la philanthropie comme dans d'autres domaines. J'ai au bout du fil M. Daniel H. Lantaigne. Bonjour, M. Lantaigne.
Bonjour.
Vous êtes consultant chez BNP Performance Philanthropique. Et président désigné au Québec de l'Association des professionnels en philanthropie. Peu de gens sont aussi bien placés que vous pour nous en parler. L'impact de la COVID sur la générosité, parce que beaucoup d'organismes dépendent de la philanthropie pour leur survie.
Oui, exact. Exact. Sans ces dons-là, qui sont substantiels généralement d'année en année pour beaucoup d'organisations, c'est clair, c'est une très, très grande dépendance à ces dons-là. On se rappelle que les organismes de bienfaisance enregistrés à eux seuls, c'est 85 000. Il y en a d'un bout à l'autre du pays, c'est quand même 2,4 millions d'emplois. Donc, c'est une forme d'industrie à part entière, une industrie qui répond évidemment à des besoins humanitaires, des besoins de proximité plus que jamais en ce moment durant avec la pandémie d'ailleurs.
Et est-ce que vous voyez, je pense qu'il y a une recherche qui vient de la société Imagine au Canada qui a démontré de façon assez probante l'impact que la pandémie avait sur le corridor de transmission d'argent entre l'entreprise, le corporatif, le mécène, le donateur et l'organisme de charité ou de caritatif qui dépend des dons.
Oui, exact. Donc, Imagine Canada, là, qui est un organisme qui fait évidemment la promotion de la philanthropie, qui en prend aussi une bonne mesure d'impact. Ils ont estimé là à peu près à 15 milliards de dollars les pertes en 2020 pour ces organisations-là. Et c'est pas le montant financier n'est pas nécessairement le truc sur lequel on doit accrocher, mais plutôt sur le fait que bien, tout cet argent-là, généralement, est converti en services, est converti en denrées, est converti en besoins immédiats à des populations un peu plus vulnérables. Bien, tout cet argent-là fait en sorte que peut-être un organisme sur cinq qui, d'ici les prochaines semaines, ce n'est pas déjà fait encore, va devoir mettre la clé à la porte parce que, justement, ça vient affecter grandement la capacité de ces organisations-là qui ont vu fondre bien, leurs dons. Puis, petit ou grand organisme, la semaine passée, je prends l'exemple de la fondation du CHU Sainte-Justine, ils disaient qu'ils sont évidemment avec une baisse de 30 % des revenus par rapport à l'année précédente. Donc, on peut s'imaginer les plus petites organisations à quel point ils sont très vulnérables par rapport au financement.
Oui, parce que peut-être des organismes, comme vous parlez du CHU de Sainte-Justine, des fondations, des hôpitaux, des organismes qui sont très connus de la population, où souvent il y a des dons récurrents qui sont déjà mis en place. Et même si ce que vous nous dites, c'est même ces organisations-là en souffrent, on peut imaginer que dans les petits organismes communautaires qui vivent de loterie ou de soupers bénéfices et d'activités très ponctuelles, parce que ça a été. Il n'y a pas eu de tournoi de golf là, cet été pour faire des levées de fonds.
Exact. Donc, il y en a qui ont été très imaginatifs, qui ont converti leurs événements de façon virtuelle, et ça s'est très bien passé. Bon, un, parfait, il y a un peu moins de dépenses puisque c'était pas un événement sur site, mais par contre, les dons étaient un peu moins présents. On voit généralement là, que les événements, pour ceux qui ont été convertis en virtuel, ça va être le deux tiers, mais plus souvent, ça va même être le tiers des profits qui sont générés. Donc, des organismes qui étaient très dépendants vers les événements, bien évidemment, ça les a mis en situation un peu plus précaire. Et, grosso modo, au Québec, si on prend la mesure dernièrement, ben, ça fait quand même que c'est 60% des organismes qui sont à risque très, très élevé pour pouvoir maintenir leur activité. Et l'activité, ben, des fois, c'est des services directs à la population. Hein.
Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on pourrait appeler les donateurs messianiques, les grands donateurs qui, de toute manière, ont une structure de dons par une fondation, les entreprises qui aussi ont des programmes d'implication auprès de la communauté, d'une part, et les comportements individuels, les gens qui, comme vous et moi, sont parfois sollicités. Est-ce que la COVID a eu un impact plus grand sur la psyché des individus ou sur le budget des entreprises?
Ben, si on repart avec le principe de base que pour donner de l'argent, il faut en avoir. Hein? Mm-hmm. Alors, si on repart avec ce principe-là, bien évidemment, les donateurs individuels, vous comme moi, ben, ça dépend vraiment de la situation. Est-ce que ces personnes-là ont perdu l'emploi, sont allées sur le PACME ou sont dans une industrie qui s'est quand même bien positionnée et donc que les revenus ont continué de se maintenir de façon stable. Fait que ça, c'est très inégal, je dirais, en termes de donateurs individuels. Si on s'en va un peu plus vers les grands mécènes dont vous parlez, dont les fondations privées, ben, il n'y a pas très longtemps, justement, je prends l'exemple de la Fondation Israeli, qui a sorti 10 millions le plus rapidement possible. Ils se sont dit, bon, on va être très agile. Ces fondations-là, justement, ont brisé les barrières aux demandes de financement, sont allées vraiment avec des fonds d'urgence propres à la COVID. Beaucoup de ces organisations-là donnaient peut-être pas aux personnes en situation d'itinérance, aux banques alimentaires. Ils se sont dit, bien là, en ce moment, il est là, l'urgence notamment, et on va se concentrer là-dessus. Donc, ces grands mécènes-là, ces grandes organisations-là qui sont quand même solidement appuyées, soit avec un bon capital ou avec un bon maintien à flot des revenus, bien, ont été en mesure de continuer de donner, et ça, ils l'ont fait. Et par chance, il y a eu cette agilité-là du côté des fondations privées, subventionnaires, puis même des fondations publiques.
Donc, certaines causes sont devenues plutôt des aimants, comme vous parliez de l'itinérance, des besoins qui étaient criants dans la crise qu'on a vécue en 2020, peut-être d'autres causes ont été délaissées, mais ouais. D'une façon ou d'une autre, il a fallu être créatif. Est-ce qu'il y a des exemples? On a eu des tournois de golf sur Zoom, des encans silencieux, des choses comme celle-là. Est-ce que ça va pouvoir se répéter jusqu'au milieu de l'année prochaine ou il commence déjà à y avoir une fatigue?
Oui, c'est vrai que l'élastique est mis à rude épreuve dans le sens que, bon, tout le monde a bien voulu, c'est-à-dire se faire une dégustation de vin, par exemple, à la maison. Recevoir ses bouteilles de vin, se connecter à Zoom avec un sommelier, c'est une chose de le faire une fois, c'est une chose de soutenir les organisations. Par contre, est-ce que les gens vont être encore au rendez-vous? Le virtuel a ses limites. Là. Une bonne partie des gens passent leur journée déjà en mode virtuel sur des Zooms, des Teams de ce monde. Alors, ben, c'est sûr qu'on voit qu'il y a une fatigue globalement. Donc, ces organismes-là, ben, ils vont devoir continuer de se réinventer et de trouver peut-être un simili Ice Bucket Challenge par rapport au contexte de la COVID et du virtuel. Mais franchement, je trouve qu'en très, très peu de temps, les organisations ont été extrêmement bien faites, ont été très agiles, se sont virées de bord super vite, mais je sais que plusieurs sont déjà très, très avancés dans leur réflexion pour l'année prochaine, sachant qu'on ne peut pas tous se connecter à un ordinateur pour des événements. La réponse ne sera peut-être pas là.
Et peut-être certains organismes seront obligés de se joindre, enfin, de fusionner pour avoir des organismes qui sont, par exemple, dans des causes communes ou qui défendent des intérêts communs, vont pouvoir peut-être, enfin, vont être obligés de se fondre les uns dans les autres pour être capable de sauver les meubles. Est-ce qu'il y a déjà des discussions de ce côté-là? Est-ce que vous avez vu des exemples de fusion ou c'est à venir?
Je dirais qu'on est probablement beaucoup dans les discussions en ce moment. J'en ai une écoute certaine. On voyait déjà des exemples de mutualisation. Donc, des organismes qui disent, bon, on va partager des pieds carrés ensemble, on va se regrouper, donc on va diminuer nos dépenses fixes de manière commune. Sans nécessairement parler de fusion. Donc, un premier rapprochement, première façon d'être peut-être un peu plus agile financièrement. Donc, ça, on le voyait, mais c'était fait de façon très volontaire, dans des bonnes postures financières d'organisation. Mais là, on voit que malheureusement, la mutualisation, la fusion, ben, elle va se faire un peu par la force des choses. C'est un peu dommage, mais en même temps, ça va permettre aux usagers, aux bénéficiaires, de ne pas perdre ces services-là parce que un organisme qui ferme, ben, c'est souvent des services aussi qui ne sont plus rendus et il n'y a pas grand monde là, qui sont prêts en ce moment d'accepter et d'augmenter leur capacité par rapport à ces besoins-là. Donc, on espère que ces discussions-là de fusion ben, vont porter fruit, que ça va permettre là, à l'ensemble des populations, notamment celles qui sont plus vulnérables, de bénéficier de ces services-là encore.
Parce qu'il y a aussi un autre aspect de la philanthropie qui n'est pas monétaire, c'est le bénévolat. Les gens, au lieu de donner de l'argent, donnent du temps. Et le bénévolat, souvent, se traduit par une action directe où on est en contact direct avec la personne qui a besoin de service parce qu'elle est en situation d'handicap ou de détresse. Est-ce qu'il y a un risque de voir l'armée des bénévoles souffrir d'une certaine attrition parce qu'inactive?
Oui, la COVID a fait très, très mal aux bénévolats. Vous savez, bénévolat, c'était quand même là 12,7 millions de Canadiens qui faisaient du bénévolat de façon encadrée. Puis, tout ça pour rajouter des bénévoles qui font juste aider leurs amis, leurs voisins, comme aller faire l'épicerie, par exemple. Donc, le nombre est quand même assez important. Mais ce qu'on retient, c'est que les bénévoles, la plus grande strate, la portion de bénévoles, c'est des gens qui étaient à la retraite, des gens d'un certain âge. Bien, évidemment, ils sont aussi plus vulnérables aux effets secondaires de la COVID. Donc, ils se sont protégés, se sont retirés de façon évident, puis les organismes non plus ne veulent pas les mettre à risque. Donc, on est dans un très, très grand débalancement où, ben, on a un nombre de bénévoles disponibles qui ont fondu comme neige au soleil. Puis en même temps, on a des besoins qui ont augmenté. Là, on a vu l'itinérance a doublé à Montréal. Les besoins en banque alimentaire ont presque triplé, sinon plus. Ben, là, on a un total déséquilibre parce qu'on a un peu moins de gens qui sont disponibles parce qu'il faut préserver leur santé à la base. Et, ben, il va falloir regarder comment on réactive tout ça. Éventuellement, quand ce sera possible de les ramener sur le terrain de façon sécuritaire. Mais on comprend l'importance de garder un canal de communication avec les organismes et ces bénévoles-là. Et d'essayer, il y en a qui ont été très agiles, ben, ils ont fait faire des appels téléphoniques, ils ont utilisé de façon différente à distance, parce qu'il ne faut pas les perdre. C'est quand même presque l'épine dorsale, je dirais, de ce secteur-là encore aujourd'hui, parce que sans ces bénévoles-là, ben, évidemment, les organisations ne peuvent pas faire tout ce qu'ils font. Ça, c'est indéniable.
Tout à fait. C'est une main-d'œuvre dévouée et évidemment gratuite par nature. Bien, c'est encore le temps de penser avant le 31 décembre à faire un don, de discuter avec son professionnel des finances, son conseiller, de dons planifiés ou de choses qu'on peut faire pour aider son prochain et les causes qui nous tiennent à cœur. Bien, Monsieur Daniel Lantaigne, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et on se souhaite tous d'avoir une année 2021 différente de celle qui s'achève.
Certainement. Joyeuses fêtes également.
Merci.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Moelle épinière et motricité Québec, le MEMO, est en nomination pour un prix à part entière dans la catégorie organisme à but non lucratif. Les prix à part entière seront décernés plus tard cet hiver par l'Office des personnes handicapées du Québec. Nous avons au bout du fil Mme Virginie Archambault. Bonjour Mme Archambault.
Bonjour M. Beauregard.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien, vous?
Ça va très bien, merci. Le MEMO est un organisme qui, existe depuis longtemps, bien qu'il ait changé de nom. Parlez-nous un peu de ses origines.
Oui, en fait, MEMO Québec était anciennement connu sous le nom de l'Association des paraplégiques du Québec. Il donc a été créé à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1946. Son fondateur est le docteur Gustave Gingras. Et donc, il voulait vraiment aider les personnes paraplégiques et tétraplégiques, donc suite aux divers crimes de guerre qu'ils avaient vécus et donc qui étaient devenus lésés médulaires. Donc, ça existe encore aujourd'hui. Donc, on va fêter bientôt nos 75 ans.
Ouf! 75 ans d'activité. Et le docteur Gustave Gingras, ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à googler son nom, sa vie, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans sa carrière au Québec, dans la région de Montréal. Alors, Mme Archambault, aujourd'hui, depuis évidemment des débuts, il y a près de 75 ans, le MEMO fait son action dans différents segments. Il y a de la recherche, il y a de la défense de droits. Parlez-nous un peu des rôles que joue le MEMO.
Oui, on a divers volets. En fait, on a notre volet intégration. Le volet employabilité, volet recherche et volet défense des droits, comme vous aviez dit. Donc, le volet intégration, c'est vraiment de l'intervention par les pairs, donc des personnes qui sont eux-mêmes blessées médulaires, donc vont intervenir auprès de d'autres personnes lésées médulaires. Ils donc sont actifs dans les divers centres d'expertise pour blessés médulaires partout au Québec. Nous avons également un centre d'employabilité, donc on a des conseillers en employabilité, une conseillère en orientation, donc ils travaillent tous à l'insertion et au maintien en emploi des personnes donc qui ont des limitations neurologiques ou motrices et donc qui demeurent sur l'île de Montréal. Et on a également, c'est ça, un volet défense des droits, pour vraiment soutenir nos membres dans leurs diverses luttes pour obtenir des services de santé ou bien diverses technologies, des aides à la mobilité. Donc, c'est vraiment varié les diverses causes que l'on soutient. Puis, on a également depuis 2 ans, donc c'est moi qui a le poste d'agente de recherche. Donc, on soutient diverses équipes de recherche donc partout au Québec et au Canada, qui visent donc soit à développer des nouvelles technologies pour les personnes blessées médulaires. Donc, c'est assez varié également les divers projets dans lesquels on s'implique.
Parce que la personne blessée médulaire tout récemment vit un choc. Sa vie vient de changer. Et souvent, elle ou elle ne sait pas de quel côté se tourner, comment va être sa vie dorénavant, comment ça va se répercuter au niveau de l'emploi, la famille, tout simplement l'adaptation des lieux physiques et ainsi de suite. Alors, vous êtes là pour accueillir des blessés médulaires au moment de leur intégration, au moment où ils vont commencer leur nouvelle vie.
Oui, exactement. On agit donc dès que l'accident arrive. Donc, on va soutenir la personne dans toutes ses diverses phases de réadaptation jusque lorsqu'elle se rend à domicile. On soutient également les personnes qui sont à domicile, donc soit par nos diverses activités ou par des interventions, que ce soit par téléphone, par nos diverses plateformes en ligne où donc dans un ancien monde c'était en présentiel, donc maintenant c'est plus difficile, mais on fait notre possible. On les accompagne du meilleur de nos capacités dans les divers centres d'expertise, comme l'on disait. Donc c'est sûr aussi qu'une personne nouvellement blessée médulaire va passer par diverses phases de deuil. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que c'est pas linéaire nécessairement et c'est pas pareil pour tout le monde. Mais la plupart, c'est ça, vont dénier au début leurs conditions, vont avoir de la colère, de la tristesse et par la suite vont arriver à accepter leurs conditions et créer de nouveaux rêves, se faire une nouvelle vie. Donc, Mémo Québec est vraiment là pour les soutenir tout au long. Et puis, c'est ça, nos divers conseillers en intégration ont eux-mêmes vécu oui. Cette expérience-là. Donc, c'est sûr que leur savoir expérientiel est un grand plus dans leurs interventions.
Rien ne peut remplacer une personne qui a parcouru le même cheminement, qui a vécu les mêmes étapes, et qui comprend le sentiment de désespoir, de colère, de tristesse ou de dépression là, qui vont souvent accompagner une situation d'handicap qui survient brusquement dans sa vie. Du côté des défenses des droits et des intérêts des personnes qui vivent en situation d'handicap, je pense que très récemment, vous avez remporté ou vous avez participé à une victoire importante avec le bras Jaco.
Oui, c'est ça. On a annoncé la semaine dernière, en fait, que l'un de nos membres tétraplégique, donc, a reçu un bras Jaco financé par la Société d'automobile du Québec, donc la SAAQ. Et puis, on était très fiers de cette victoire. Il se bat depuis 2015, en fait, pour obtenir ce bras jaco qui va lui permettre, en fait, d'exercer plusieurs activités qu'il ne pouvait faire seul auparavant. Donc, sa condition de santé avec un impact sur son autonomie et maintenant va pouvoir être très autonome par lui-même. Donc, on est bien content.
Parce que ce qui bloquait, c'était que la prothèse, le bras jaco, n'était pas reconnu et donc n'était pas financé suite à l'accident.
Oui, c'est ça, exactement. Et puis, c'est encore le cas pour plusieurs agents payeurs, là, tels que la CNSST ou bien la RAMQ. Mais bon, c'est un premier pas pour la SAAQ.
Ben, tant mieux. Mais en plus, évidemment, au moment où vous m'avez parlé, comment pendant la pandémie, ce que nous vivons en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à faire face à face, on le sait. Mais au-delà de ça, quels sont vos projets pour 2021?
Ben, en fait, il va avoir notre 75e anniversaire.
Mm-hmm,
donc, c'est certain qu'on va faire diverses activités. On va voir comment ça se présente. C'est sûr qu'on ne sait pas encore si on va pouvoir faire des activités en présentiel, mais sinon, on va être disponible en ligne. Puis, c'est ça, on va continuer notre travail de soutenir au meilleur de nos connaissances les personnes blessées médulaires, là, que ce soit par nos interventions dans les centres de réadaptation ou en employabilité. Donc, et en recherche également, on vise toujours à développer des nouveaux projets de recherche et des nouveaux partenariats, donc qui vont éventuellement pouvoir soutenir les personnes qui vivent cette condition.
Bien, Madame Archambault, je vous remercie beaucoup. Au moment où on se parle, vous êtes en liste pour le prix à part entière qui va être remis plus tard cette saison par l'Office des personnes handicapées du Québec. Alors, c'était Madame Virginie Archambault de Moelle-Épinière et Motricité Québec. Bien, je vous souhaite de belles fêtes, Madame Archambault, et que tous vos projets de 2021 puissent se réaliser. Merci.
Merci beaucoup, M. Beauregard.
Thank you.
Au début de l'émission, j'ai omis de vous dire que nous avons notre revue de presse, évidemment. Comme à chaque semaine, on va faire un petit tour du monde et ce privilège m'est aujourd'hui conféré. Il y a eu un concours de photos en Europe, un concours de photos qui a été organisé par le Forum européen des personnes handicapées, qui est une ONG qui représente les intérêts de 100 millions de personnes atteintes d'un handicap en Europe. Cette ONG, le Forum européen des personnes handicapées, organise chaque année un concours de photos, photos amateurs, mais d'excellente qualité. Et le concours a dévoilé, il y a quelques jours, les trois lauréats. Et le thème cette année pour le concours de photos était « Lieux inaccessibles ». C'est sûr que des lieux inaccessibles, il y en a tout plein, c'est pas difficile à trouver. Mais ce qui est intéressant, c'est comment les représenter d'une telle manière que ça fait passer le message que l'accessibilité est importante et en fait normale. L'objectif était de dénoncer la conception inadéquate ou l'absence de mesures inappropriées, ou l'absence de mesures appropriées, dis-je, ou la présence de mesures qui ne l'étaient pas. Ce concours avait cette année permis à plusieurs photographes amateurs de se faire remarquer et le premier prix, le tout premier prix a été remis à M. Benno Fleig, qui est un photographe allemand amateur. Et sur la photo, je vais vous la décrire très simplement. On voit un étudiant en fauteuil roulant, c'est une photo noir et blanc. On voit l'étudiant au premier plan en fauteuil roulant et il a devant lui un immense escalier de type néoclassique, le genre qui n'a pas de rampe. Et cet escalier monte et doit faire une vingtaine de marches. Et ça amène à la bibliothèque universitaire de la faculté où il est inscrit. Alors, la photographie montre évidemment les problèmes d'accessibilité de façon assez probante. Et ça, c'est le premier prix qui a été remporté par M. Benno Fleig. Le deuxième prix, on voyait un guide dans un parc national au Brésil qui devait porter des personnes à mobilité réduite sur son dos pour les amener à un site voisin où il y en avait une excellente vue d'une très, très belle chute. Mais évidemment, le parcours accidenté ne l'était pas tant que ça, sauf que quand on a une mobilité réduite, tout d'un coup, ça devient de la catastrophe. Et finalement, le troisième prix qui a été remporté par un photographe irlandais montrait dans un grand stationnement de grande surface commerciale des places d'automobiles pour personnes handicapées, des places supposément accessibles qui, en raison d'un mobilier urbain catastrophique, ne l'étaient pas du tout. Alors, les trois clichés ont remporté les premiers, deuxième et troisième places. Bravo aux photographes et on espère que ça puisse faire un peu d'éducation populaire. Hier, dans Le Monde, journal prestigieux en France, Le Monde, dans son édition du dimanche 13 décembre, nous apprend que, atteints de cécité, des patients recouvrent en partie la vue grâce à une thérapie génique. L'injection d'un virus inoffensif, porteur d'un gène thérapeutique, dans l'œil de 37 patients atteints de cécité à la suite d'une dégénérescence héréditaire de la rétine, on parle ici de la maladie de Leber, a permis à 80% d'entre eux d'améliorer significativement leur vue. C'est une avancée à saluer. Pour la première fois, une thérapie génique montre son intérêt chez l'homme dans le traitement d'une maladie mitochondriale. Elle améliore les capacités visuelles de jeunes patients atteints d'une maladie héréditaire de l'œil, la neuropathie optique héréditaire de Leber, ce que beaucoup d'entre nous connaissons sous le nom de NOHL. Cette innovation issue de recherches françaises menées à l'Institut de la Vision, INRSM, CNRS, Sorbonne Université, à Paris, a été publiée le 9 décembre dans la revue Science Translational Medicine, or Science Translational Medicine, I guess. C'est une start-up française, comme on dit dans le monde, GenSight Biologics, vraiment en France, ça parle Shakespeare, qui développe cette thérapie, l'essai ayant été conduit par un consortium international. La neuropathie optique héréditaire de Leber causerait la cécité visuelle dans environ 1200 personnes chaque année aux États-Unis et en Europe. Alors voilà une avancée prometteuse à suivre. 2020 marque un anniversaire important pour la compagnie de danse Corpuscule. Et pour célébrer avec eux, nous avons au bout du fil Mme Marie-Hélène Bellavance, qui est co-directrice artistique. Bonjour Mme Bellavance.
Bonjour, merci, merci de l'invitation.
Ça nous fait plaisir. Alors, quel anniversaire fêtez-vous cette année chez Corpuscule?
Quel anniversaire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle année de...
Vous êtes, c'est votre 20e cette année?
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est votre 20e anniversaire d'activité et Corpuscule a commencé évidemment tout petit. Je ne voulais pas faire une blague avec Corpuscule, mais comment ça a commencé?
Bien, Corpuscule, ça a commencé par une initiative de France Geoffroy, qui est une danseuse tétraplégique qui avait le désir de danser, en fait, depuis longtemps, puis qui s'était aussi inscrit en danse à l'école à l'époque, mais suite à un accident de plongeon, a été paralysée. Puis après cet événement-là, le désir de France était quand même présent d'aller au bout de... Je pense les circonstances ont fait qu'elle a voulu aller au bout de ce rêve-là, puis les personnes qu'elle a rencontrées. Donc, Corpuscule est née de ce désir-là, de ce rêve de pouvoir danser malgré tout, malgré son handicap. Puis, les personnes autour du milieu de la danse se sont arrimées à elle pour pouvoir permettre cette réalisation-là, finalement. Puis le début de la compagnie s'est formé quelques années plus tard, la compagnie comme telle. Donc, Corpuscule a commencé avec France, mais c'était pas encore une compagnie à l'époque. C'était vraiment juste comme une artiste.
C'était sa quête personnelle au début, mais
oui.
Ça l'a grandi. Parce que
ça
maintenant, vous faites un tas de choses. Vous montez des spectacles, on va en parler tout à l'heure. Vous faites de l'enseignement. Vous transmettez aussi ce que vous avez appris au fil du temps sur l'organisation et de monter un spectacle et comment travailler de façon cohérente avec des artistes, des danseurs, danseuses à la fois valides et d'autres vivant des situations d'handicap.
Oui, en fait, c'est ça. On opère sur... dans différents secteurs. Donc, vous l'avez nommé au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche-création de spectacles au niveau professionnel, mais aussi plus amateur. On fait aussi des conférences, de la transmission de nos connaissances, comme vous dites, auprès des jeunes, des adolescents, des adultes, mais aussi dans des secteurs comme en enseignement de la danse. Donc, on a différents projets, différentes sphères. Puis, effectivement, c'est toujours au cœur de nos préoccupations de permettre pas juste aux personnes vivant en situation de handicap, mais je pense d'aller à la rencontre de la différence, puis de créer cette rencontre-là entre des milieux différents, entre justement des communautés qui ont un handicap, mais aussi des danseurs sans handicap. Donc, c'est toujours la rencontre, autant dans nos cours pour enfants, pour ados, adultes, il y a toujours cette mixité-là qui est importante pour nous. Donc, ce n'est pas de faire quelque chose de thérapeutique. Oui, c'est sûr que ça...
Ça le devient par la force des choses, mais ce n'est pas la première intention.
Non, ce n'est pas l'intention. L'intention est vraiment plus artistique et au niveau de la rencontre que thérapeutique.
Comment les gens viennent à vous? Comment quelqu'un qui est en situation d'handicap, parce que c'est le point de vue, c'est le point de vue de Sans Détour, peut communiquer avec vous? Comment est-ce qu'on s'arrime à votre projet?
Bien, on a différents appels de projets. C'est sûr que il y a notre site web qui donne de l'information quand on a des nouveaux projets auprès de la communauté. Des fois, on lance des appels de projets aussi avec des écoles, qu'on sait qu'on a des partenariats qui ont des groupes qui mettent de l'avant ou qui ont déjà une communauté à eux. Je pense entre autres à Altergo, qui est un organisme qui travaille avec des personnes en situation de handicap. Donc, tu sais, nous aussi, on fait du démarchage de notre côté. Les gens individuels peuvent venir à nous directement à travers le site web ou par rapport à des sessions de cours qui sont offertes.
des appels de projets pour des projets spéciaux. Puis quand, des fois, on donne des stages, donc je parle comme par expérience personnelle, moi, c'est comme ça que je suis venue à Corpuscule,
d'accord,
finalement. Il y avait une offre d'un stage d'une fin de semaine pour la danse, puis moi aussi, j'ai un handicap physique, puis je pensais pas danser, mais je me suis dit, ah, ça serait intéressant d'essayer, puis je suis allée vers Corpuscule de cette façon-là. Donc,
l'essayer, après... ça a été l'adopter. Vous y êtes,
oui.
vous êtes co-directrice artistique maintenant, là. Alors, vous êtes.
Ouais, mais là, ça fait quand même plusieurs années, là. C'est passé beaucoup de choses depuis, mais oui. Oui.
Vous avez une couple de projets que vous êtes en train de monter pour mm-hmm. les prochaines saisons, entre autres oui. Monts et Vallées. Je pense qu'il mm-hmm. devait commencer à être bâti, monté au cours de l'automne. Est-ce que la pandémie oui. vous a freiné?
Non, en fait, là, c'est un titre provisoire. Ça va peut-être même changer encore. Là, ce serait peut-être plus géographie quand
d'accord.
on appellerait le projet, qui est avec la chorégraphe Aurélie Pédron, qui est une chorégraphe d'ici. Ben, pas d'ici, elle est française, mais elle habite au Québec. Elle œuvre au Québec depuis plus de 15 ans. On a débuté cet automne la recherche-création. Évidemment, je pense que c'est plus facile puisqu'on est à une période de début de création et non de diffusion. Les compagnies qui souffrent de la pandémie en ce moment, c'est surtout des projets, des annulations de projets.
De représentation. Oui.
Oui, au niveau de la diffusion. Tandis que nous, on avait terminé notre cycle de diffusion, si on peut dire, ou en tout cas, on était stand-by pour des choses, mais on commençait des nouveaux projets. Donc là, on commence avec ces contraintes-là. On réapprend aussi à travailler dans le lien. Je pense que cette année, tout le monde réapprend aussi à redéfinir qu'est-ce que c'est être ensemble, qu'est-ce que c'est être en lien, comment on travaille en collaboration. Donc, nous, on le fait en studio. On avait le droit de poursuivre nos activités avec, évidemment, les mesures et la distanciation.
Toutes les nécessités comme le masque et la petite bouteille de savon et le galon qui mesure 2 mètres.
Oui, exactement. Donc, on a travaillé quand même en studio, mais avec ces contraintes-là. Par contre, ça donne autre chose, puis ça faisait vraiment du bien de se retrouver en studio dans le contexte qu'on vit, là, qui est quand même assez, on peut pas le minimiser, là, c'est assez souffrant pour beaucoup de gens. Donc, je trouve que c'est une belle chance de pouvoir continuer à travailler, même si c'est différemment.
D'accord.
Donc, oui.
Ben, un projet comme Géographie, ça se destine plutôt aux artistes, aux danseurs, danseuses qui ont déjà du métier ou une formation et qui en ont oui. déjà fait. Mais pour ce qui est de l'enseignement, si on retourne mm-hmm. au tout début de l'apprentissage, vous allez mm-hmm. dans des écoles, dans des centres spécialisés, vous offrez vos services. On peut vous appeler pour vous demander de venir faire un atelier?
Mm-hmm. Oui, c'est possible. On a aussi, nous, on offre des sessions de cours régulières, donc à chaque 3 fois par année, là, donc à l'automne, à l'hiver et au printemps. En ce moment, c'est sûr que c'est un peu différent parce qu'on n'a pas le droit de se retrouver en présence, mais on a offert une session en ligne la dernière à l'automne. Sinon, des fois via des écoles ou des classes, des professeurs qui veulent comme expérimenter avec leurs élèves, on offre des ateliers ponctuels donc dans des classes ou des écoles. Je pense entre autres à Victor Doré, qui
d'accord.
nous a reçus quelquefois.
Et comment est-ce que vous pouvez financer vos activités? Êtes-vous
oui.
une OSB, un organisme à but non lucratif? Avez-vous
oui.
le soutien du gouvernement?
Et c'est Corpuscule est un OSBL. Aussi, on a différentes sources de revenus, comme beaucoup de compagnies. On est supporté par les conseils des arts et lettres. Du Conseil des arts de Montréal, au Canada aussi, puis au Québec à projet, donc différents paliers là, de financement. Puis sinon, on a des fondations privées qui nous aident, ou des fois par la vente de nos cours. Donc, il y a comme différentes activités qu'on
auxquelles on peut participer pour vous aider aussi. Ça va nous faire plaisir. Madame Marie-Hélène Bellavance, vous êtes co-directrice artistique de la compagnie de danse Corpuscule. Bien, je vous remercie beaucoup. C'est tout le temps que nous avons. Et je vous souhaite de passer d'heureuses fêtes. De mon côté, ici François Beauregard. Et pour toute l'équipe de Sans détour, je vous invite à venir nous rejoindre à nouveau lundi 4 janvier à midi. Et nous allons repartir 2021 sans détour. Merci à Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde, Christiane Campagna et Louis Garon aussi un peu pour la recherche cette semaine. Merci.